François, dans son discours hier devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, le chef de l'État a notamment annoncé la nomination d'un Premier ministre dans 48 heures. Ce discours suscite plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise. Le G7 estime que le président Kabila a violé l'accord du 31 décembre 2016. De son côté, l'UDPS qualifie de coup de théâtre l'annonce de nommer un Premier ministre. Et pour la majorité présidentielle, Joseph Kabila n'a fait que jouer son rôle de garant de la nation. Comment analyser ce discours ainsi que les réactions qu'il suscite? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois le professeur Félicien Kabamba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Paul Kibal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en économie publique et développement, directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe. Professeur Pierre Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À l'issue du discours du président Kabila devant le Congrès, le secrétaire général du PPRD, sa famille politique, indique qu'elle a en ligne de mire les élections. Selon Henri Mauvasankani, le discours du chef de l'État s'inscrit dans une bonne direction. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Non mais très bien, le processus est en cours, il bouge. Pour nous les politiques, il faut une dynamique. Or la dynamique semblait s'être embourbée. Là, le président vient de démontrer qu'il a repris ses responsabilités après en avoir confié l'exercice momentanément à la CENCO. Et toutes ces annonces-là nous donnent l'espoir que ça va bouger dans le bon sens. Nous, en ligne de mire, on a les élections. Nous n'avons pas toutes les tractations entre politiciens. Mais je crois que le président a pris la bonne dimension, l'évolution de la nation, la situation délétère de notre économie avec son impact sur les vécus politiques. Des Congolais. Il faut très rapidement mettre en mouvement toutes les synergies pour que les forces politiques convergent, coalisent, afin que nous puissions nous attaquer à tout ce problème que notre économie, notre société connaît, notamment l'insécurité dans le Kassai. La mesure forte du président de cerner ce problème pour qu'il ne se propage pas partout, c'est une très très bonne annonce et je crois que nous allons dans la bonne direction.
Par contre, à l'UDPS, l'on considère l'appel du chef de l'État et ce qui s'est passé au Palais du Peuple comme, je cite, « un coup de théâtre », fin de citation. S'exprimant devant la presse hier mercredi, peu après le discours du chef de l'État, le porte-parole de l'UDPS a réaffirmé la position du rassemblement selon laquelle Joseph Kabila est le seul responsable du blocage et de la crise. Pour le G7, le président Joseph Kabila n'a rien dit de nouveau qui puisse avancer les choses. Sur le plan économique et sécuritaire, tout ce qu'il a dit ce mercredi est une répétition de ce qu'il a déjà dit. Et sur le plan politique, je note qu'il est tout simplement sorti de l'accord du 31 décembre. Réaction de Christophe Lutundula, cadre du G7 et du rassemblement qui soutient Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. On l'écoute au micro, au téléphone plutôt, de Pelekipe Lamondo.
On n'a pas avancé, le président de la République n'a rien dit qui puisse faire avancer le dossier. Sur le plan économique, social et sécuritaire, ce sont les mêmes phrases, les mêmes mots qu'on a entendus depuis 15 ans qu'il est au pouvoir, qu'il s'agisse de l'emploi, du pouvoir d'achat, des salaires et du bien-être des Congolais en général. On n'a qu'à se référer à la révolution de la modernité, aux cinq chantiers, c'est la même chose. Sur les questions politiques, j'ai remarqué que le président est sorti totalement de l'accord pour les raisons suivantes. D'abord, il dit qu'il va nommer le Premier ministre dans 48 heures. Je rappelle que tous ces temps, la majorité a toujours insisté sur le fait qu'il n'y aura pas de nomination de nouveau Premier ministre sans la signature de l'arrangement particulier. Et dans l'accord, il est dit effectivement qu'il faut signer l'arrangement particulier avec chronogramme pour que tout cela se fasse comme convenu. Maintenant, il nous parle de 48 heures. Quelle est la référence de base qu'il prend?
Par ailleurs, le groupe des opposants consultés par le chef de l'État disent avoir déjà présenté à Joseph Kabila la liste des candidats à nommer au poste de Premier ministre depuis mardi. D'après certaines sources, la liste déposée par Joseph Olenga Nkoy et sa délégation au chef de l'État comporte 5 noms de candidats Premier ministre. On y trouverait des noms tels que Félix Tshisekedi, Valentin Moubaké, Bruno Tshibala, Katebe Katoto et Roger Lumbala. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, comment vous avez analysé le discours du président de la République, de façon générale pour commencer?
Alors, sur le plan de l'accent, du ton, ce discours a eu un ton moins agressif que les précédents. Il n'a pas, comme le précédent discours, étalé les grandes réalisations socio-économiques du gouvernement, probablement en raison de la situation socio-économique qui est très délicate. Ce discours opère un diagnostic en dents de scie de la situation sécuritaire, avec des évolutions qu'il qualifie de positives dans le Tanganyika, Sud Kivu et Nord Kivu, et un déplacement de l'insécurité vers le centre du pays. Et par contre, au plan politique, c'est bien entendu l'accord de la Saint-Sylvestre qui est au cœur de son adresse. Et dans cette nouvelle adresse, bien entendu, le chef de l'État ne clarifie toujours pas la situation de son avenir politique. Et donc, et pourtant, c'est l'une des questions les plus essentielles et les plus attendues chaque fois que est annoncé les discours du chef de l'État. Eh bien, il insiste par contre sur le fait que le pays ne doit pas être otage d'intérêts personnels, alors que les gens trouvent que le fait qu'il ne dise rien sur son avenir politique, il vit son propre intérêt personnel.
Et donc, qu'il prend aussi pays en otage.
Donc absolument. Donc il faut lier la question de l'intérêt personnel à celle évidemment de l'avenir du chef de l'État. Ce qui, à mon avis, une telle adresse pourrait apaiser beaucoup d'esprits et, à mon avis, atténuer un certain nombre de tensions qui sont palpables dans la société.
Alors, professeur, avant de poursuivre votre analyse, il y a d'autres analystes qui sont allés un peu plus loin, qui ont pensé que dans sa posture, ils ont presque vu un chef d'État un peu fatigué physiquement, selon certains analystes.
Bon, je ne dirais pas qu'il est fatigué physiquement, mais je le sens vraiment à la peine. Je le vois à la peine. À la peine tant il est vrai que les questions et surtout les solutions qu'il a apportées ne semblent pas être des solutions adaptées. Quand vous suivez les différentes déclarations, on peut bien se demander si le discours du chef de l'État a résorbé la tension et la crise politique ou il l'a exacerbée. Et donc, est-ce que les propositions qu'il va faire ne vont-ils pas être apparentées à une sorte d'un atterrissage de l'accord au forceps, étant donné que les uns et les autres disent non, mais on devait se mettre ensemble pour signer les arrangements particuliers. Et cela a été d'ailleurs la condition posée par nos amis de la majorité. Si vous suivez bien tout à l'heure les propos de Christophe Lutundula, on en arrive à penser qu'il y a là véritablement une sorte d'atterrissage au forceps de l'accord.
Allez-y, professeur.
Ce qui ne serait pas une bonne chose, parce qu'un accord, c'est quelque chose de consenti par toutes les parties prenantes, ce n'est jamais quelque chose d'imposé.
Serait-ce un discours raté, professeur?
Non, mais je crois qu'il faudra attendre le résultat. Il faudra attendre le résultat. On ne peut pas d'emblée dire que c'est quelque chose de raté. Mais je crois qu'il faut aussi voir deux autres choses dans le discours du chef de l'État. C'est que, en fait, il était présenté comme garant de la nation. S'il allait être au-dessus de la mêlée. Et devant être au-dessus de la mêlée, on attendait de lui soit qu'il parte des propositions faites par les évêques, et les deux propositions sur les deux questions, on les connaît, mais apparemment, il n'a pas choisi de prendre ni l'une ni l'autre. Par contre, il a plutôt épousé les thèses soutenues par la majorité. Et de ce point de vue, il y a une autre voie qu'il aurait pu emprunter. C'est-à-dire, comme il y a deux questions qui divisent l'opposition et la majorité, eh bien, on donne raison à la majorité sur une question et à l'opposition sur l'autre, quitte à faire les arbitres et quitte à jouer véritablement le rôle de garant de la nation. Dire, ok, vous vous battez, mais moi je vais vous partager. Pour l'une question, pour la première question, c'est l'opposition, je pose la thèse de l'opposition, et pour la seconde, je pose celle de la majorité. C'était également une seconde voie qui pouvait le situer au-dessus de la mêlée.
En d'autres termes, il n'a pas su aller au-delà.
Alors, on est là dans une posture où, évidemment, c'est les thèses, ce sont les deux thèses, les deux positions qui étaient, si vous voulez, soutenues par la majorité, qui ont été reprises par le chef de l'État. Ce qui, à mon avis, donne une mauvaise posture au chef de l'État, étant donné le rôle du garant de la nation, d'une personne qui est au-dessus de la mêlée, qui est généralement attribué ou attaché à la fonction du chef de l'État.
Alors, vous avez tout à l'heure dit, professeur, qu'il était trop tôt de parler d'un discours raté, qu'il fallait attendre les résultats. Eh bien, les résultats, c'est que dans 24 heures, 48 heures hier, il va nommer un premier ministre. Et selon le G7, le rassemblement, ça viole l'accord.
Il a promis qu'il allait nommer dans 48 heures. Ça veut dire demain. Alors, nous allons voir un tout petit peu. Qu'est-ce que cette nomination va donner comme recette? Et qu'est-ce que la nomination va apporter comme solution à la crise actuelle? Mais il me semble bien que les positions qui sont émises aujourd'hui par le groupe de Félix Tshisekedi ne semblent pas augurer d'un avenir politique détendu. Il me semble bien que nous risquons de nous enfoncer dans une crise née plutôt d'un atterrissage raté de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Merci, professeur. Professeur Paul Kibal, vous êtes professeur en économie publique et développement, directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe. Professeur, vous aussi, comment vous avez reçu ce discours du président de la République dans son intégralité d'abord?
Merci beaucoup, monsieur Alain. Au-delà des considérations personnelles, à l'IRED, Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie directe, nous avons salué à sa juste valeur le discours du chef de l'État. D'abord, le président de la République a dénoncé un certain nombre de faits qui peuvent faire que notre pays puisse sombrer au lieu d'émerger. Et parmi ces faits-là, nous les avons plus ou moins résumés dans l'absence d'une politique d'auto-prise en charge collective et d'éducation à la nouvelle citoyenneté. Nous vivons essentiellement des importations et même de produits des premières nécessités. Nous exportons la terre brute, pour ne pas dire la matière brute, sans valeur ajoutée. Le pays est devenu un grand marché pour d'autres nations du monde. Et au-delà de tout, les Congolais sont pris en otage par les politiciens. Ce sont des faits importants, pour ne pas dire graves, qui peuvent bien compromettre l'avenir de notre pays. Alors, si l'avenir apparaît incertain, à l'IRED, nous disons c'est à cause du système de la démocratie indirecte, avec sa fameuse quadrature opposition, majorité, société civile et le reste de la population qui est à l'écart de l'exercice du pouvoir. C'est ce système fondamentalement qui démontre ses limites et qui est même en faillite à travers le monde.
Alors, quelles sont ces limites, professeur?
Mais c'est ce que nous vivons exactement actuellement, c'est-à-dire la lutte pour le pouvoir. Et je dirais même le pouvoir égoïste ou le pouvoir d'un groupe d'individus. La conséquence, c'est quoi? La méfiance totale entre acteurs politiques, la mauvaise foi entre acteurs politiques, et le peuple est en dehors de tout ça. Vous comprenez que, avec un tel système, une démocratie incompatible avec nos us et coutumes, mais nous ne pouvons pas évoluer. On pourrait même dire que c'est une démocratie du copier-coller, démocratie indirecte.
Et c'est cette démocratie, évidemment, qui va favoriser l'atterrissage forcé de l'accord, un peu comme le disait le professeur Kabamba.
Non, mais la démocratie, là, est en faillite. C'est-à-dire qu'il ne pourra rien sortir de bon. S'il y a quelque chose de bon qui peut sortir, c'est à très court terme. C'est pour une durée éphémère. ce ne sera pas pour un avenir lointain de notre pays.
Alors, professeur, pourquoi êtes-vous si pessimiste alors que le président de la République a martelé, insisté qu'il y aura élection, qu'il y aura bel et bien élection dans ce pays? Pourquoi, à l'IRED, vous paraissez si défaitiste?
Nous ne sommes pas défaitistes, mais le problème c'est que nous déplorons, nous dénonçons les limites du système démocratique actuel. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'allais bien en parler, le président, là, il a réaffirmé que les élections auront bel et bien lieu. Bon, conformément à l'accord de la CENCO, je pense que les élections pourront avoir lieu à la fin de l'année. Mais encore une fois, je peux le dire, si les élections se tiennent toujours suivant le système actuel de la démocratie indirecte, les résultats ne seront pas bons. Parce que dans ce système de la démocratie directe, on est pour les intérêts égoïstes. C'est la lutte pour le pouvoir. Et le peuple a plutôt des représentants. Avec les élections, le peuple a des représentants. Et comme vous le savez, ce sont des représentants qui sont coupés avec ce peuple-là aussitôt après les élections. C'est ça le système de la démocratie indirecte.
Alors, professeur, en attendant qu'on arrive au système de démocratie directe, sur lequel vous nous donnerez un peu plus de précision, entre-temps, il y a une frange de la classe politique, notamment le Rassemblement, Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi, qui pense que le président de la République a violé l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bon, vous comprenez que c'est très difficile pour moi de m'exprimer. Parce que le problème que vous posez se situe dans le contexte de la démocratie indirecte. Si les acteurs étaient de bonne foi, sans méfiance totale, ben, moi je pense que la désignation par le chef de l'État doit s'inscrire, et d'ailleurs il l'a dit, s'inscrit dans le cadre de la poursuite des négociations directes de la CENCO. Mais le problème ici c'est quoi? C'est la méfiance totale. On pense que le chef ne va pas respecter l'accord, hein, ce qui fait que les gens spéculent dans tout le sens.
Est-ce que, par exemple, le président de la République aurait permis de dissiper cette méfiance s'il donnait une position claire sur son avenir?
Mais c'est difficile de dissiper la méfiance à cause de du système de la démocratie directe. Parce que mais tous les textes sont là. Quand vous prenez l'accord de la CENCO, par exemple, je crois qu'on a parlé de ces problèmes-là. C'est inscrit noir sur blanc dans cet accord-là, par rapport aux fonctions que le président doit jouer pendant la transition et par rapport aux élections qui devront être organisées.
Merci, professeur.
Mais c'est parce que les acteurs sont méfiants
et de mauvaise foi.
Et de mauvaise foi. Et c'est des justes titres à cause de cette démocratie indirecte.
Merci, professeur.
Conflictuelle.
Merci, professeur. Je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Pierre Virgence, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Professeur, comment vous avez perçu le discours du président de la République?
Bien, je dirais, je rejoins assez bien mon collègue professeur Félicien Kabamba. Hein. On a effectivement un problème dans la compréhension du discours du président Kabila, parce que d'une part, il annonce qu'il veut respecter le calendrier, je dirais, électoral mis au point sous l'égide de la CENCO, et en même temps, il ne respecte pas les contenus, je dirais, de ces accords. Ces accords, évidemment, n'étaient que le fruit de négociations directes entre des acteurs qui, d'ailleurs, n'avaient pas de mandat politique directement. Hein, je dirais le DPS était représenté là, non pas en fonction de sa puissance électorale, mais en fonction de sa puissance symbolique dans la population congolaise, dans le fait que le DPS, sous l'égide d'Étienne Tshisekedi, avait réussi à montrer que quand elle veut organiser une opération ville morte, eh bien effectivement il y a des villes mortes. Donc je veux dire, ce n'est pas une puissance issue justement de l'élection et du système de démocratie indirecte. C'est un système qui montre que on a tenu compte de la réalité politique et sociale, mais ces accords ne sont pas respectés, et donc ça pose effectivement un problème. On sait bien que à l'intérieur de l'opposition, il y a eu des coups de frein dans la possibilité de présenter une liste au président de la République. Hein, c'était l'opposition qui devait le faire quand même. Et alors, il y a eu toute la difficulté d'interprétation. Est-ce que l'opposition ne présente qu'un seul nom ou est-ce qu'elle doit présenter plusieurs noms? Mais l'opposition n'a pas réussi à se mettre d'accord, et il faut bien le dire quand même, l'opposition n'a pas réussi à se mettre d'accord parce qu'à l'intérieur de l'opposition, les gens sont à la poursuite du gain individuel, comme la plupart des hommes politiques de la majorité. Et donc on a effectivement là un vrai problème de système politique qui semble être quasiment bloqué par la poursuite des intérêts individuels de chaque homme politique. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ben, effectivement, en se raccrochant aux autres institutions, à celles qui existent. Celles qui existent, ben, c'est par exemple la Constitution de 2006, et donc ben, ça veut dire que ben, voilà, on retourne alors au principe que c'est le président qui désigne un Premier ministre, mais on sent bien que par rapport à l'accord du 31 décembre 2016 qui faisait face au mécontentement du peuple, ben on est à côté de la plaque, je dirais. On ne tient pas du tout compte de l'indignation des Congolais vis-à-vis de ce pouvoir qui n'a pas organisé des élections quand il devait le faire. Et donc, maintenant, toute la méfiance, évidemment, est présente sur la faisabilité, tout simplement, de ces élections. Est-ce qu'on pourra les organiser en 2017? C'est très douteux, même si là-dessus, on peut dire que le président s'est montré plutôt optimiste. Et donc, voilà, moi je dirais effectivement, comme mon collègue Kabamba, que la lecture est très ambiguë, parce que le discours est un discours avec un ton d'ouverture, mais avec des faits annoncés qui ne sont pas des faits d'ouverture. Et c'est difficile, hein. On comprend bien aussi que c'est vraiment difficile,
professeur,
face à une opposition qui elle-même est déstructurée par la poursuite des gains individuels. Mais alors là, on revient de nouveau à la responsabilité de la majorité présidentielle qui a tout fait pour semer le trouble dans l'opposition, pour probablement organiser des tentatives de corruption. Et c'est vrai aussi, je rejoins là aussi le professeur Félicien Kabamba, que les choses seraient plus faciles si le président de la République répétait de temps en temps qu'il va respecter la Constitution qui annonce qu'il ne peut pas avoir plus de deux mandats électifs. S'il le répète, je pense que peut-être les gens finiront par croire qu'il va le faire. Mais pour le moment, tant qu'il ne le répète pas, tout le monde se dit que ces manœuvres sont purement dilatoires et ne visent que à prolonger, mois par mois, sa présidence. Et on a l'impression de se retrouver comme on se retrouvait dans les années 90 à la conférence nationale souveraine face à un Mobutu qui s'arrangeait juste pour durer quelques jours de plus et qui a tenu quand même pendant 7 ans. Hein.
Alors, professeur, est-ce qu'en évoquant cet exemple, avez-vous l'impression que la classe politique congolaise a su tirer les leçons du passé?
Ben, là, j'ai envie de dire que non. De nouveau, quand on parle de la corruption, de la politique du ventre, pour reprendre les expressions de Jean-François Bayard, bien on peut se dire effectivement que voilà, les hommes politiques congolais continuent à avoir les mêmes pratiques. Ils n'ont pas regardé d'ailleurs les résultats des élections de 2006 ni celles de 2011. Parce que si on regarde les élections non pas présidentielles, celles qui sont visibles pour tout le monde, mais les élections législatives, en 2006, la plupart des députés sortants du Parlement de transition n'ont pas été réélus parce que le peuple était fâché sur eux parce qu'ils n'avaient pas agi correctement et donc la plupart d'entre eux n'ont pas été réélus. Et en 2011, la plupart des députés candidats en 2011 n'ont pas été réélus non plus. Les hommes politiques congolais n'ont pas tiré les leçons ni de la situation tragique des années 90, ni de la situation, je dirais, de type démocratie indirecte, mais permettant quand même avec des élections l'expression du peuple,
merci,
qui a montré, mais ça ils n'ont même pas regardé les statistiques, qui a montré que des pratiques de corruption comme ils le font,
merci,
ne favorisent pas leur réélection. Et pense que là, effectivement, ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de la colère dans la population.
Merci, professeur.
Et du risque de je dirais, de raz-de-marée qu'il y a.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole.
Les jeunes Congolais, avec beaucoup de courage, qui vont...
Merci, professeur. Souffrez que je vous arrête à ce niveau. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
J'adore Igilima à partir de Bukavu au Sud-Ki. À entendre ces discours et au vu des réactions divergentes qui s'en ont suivies, nous constatons non sans regret que le pays est victime de la guerre entre les intérêts contradictoires de sa classe politique. Car comment comprendre que les uns, même après les accords, se considèrent comme n'ayant pas fait de concessions, notamment sur les fameux pouvoirs discrétionnaires? Les autres, même sans avoir gagné les élections, semble parler au nom du peuple, jurant ainsi au nom des deux noms qui pourtant divisent et donnent des prétextes au camp adverse. À cette allure, le consensus s'est envolé.
Professeur, peut-on dire qu'on est dans un contexte de cacophonie généralisée?
La question posée par notre ami repose même, si vous voulez, le problème du sens du dialogue en République démocratique du Congo. En fait, chaque épisode du dialogue, et quand vous regardez, déstructure l'opposition, affaiblit l'opposition. Les opposants, chaque fois qu'on parle du dialogue, c'est une opposition. Disons, c'est une occasion de se retrouver dans un meeting où il y a un gâteau politique qui est partagé. Et c'est là que l'on parle. Le professeur Pierre Vergence vient de vous parler des intérêts individuels, des intérêts égoïstes. Et aujourd'hui, regardez, le premier épisode de dialogue, les concertations politiques, une bonne frange de l'opposition a rejoint l'autre côté. Et avec le dialogue du 18 octobre, vous avez vu comment l'opposition s'est carrément déchirée.
Une seconde vague a rejoint la majorité.
Une seconde vague, avec des contradictions internes, avec on n'a pas reconnu certains opposants qui ont même dit que les accords violaient la Constitution parce que les accords ne prévoyaient pas le référendum. Ça, ce n'est pas un discours de l'opposant. Regardez aujourd'hui, il y a un nouveau dialogue. Ce nouveau dialogue a occasionné un déchirement complet de l'opposition. Et pour la majorité, qui savait bien que l'opposition allait se déchirer autour de postes ministériels. Il attendait, la majorité était en embuscade et a saisi le moment opportun. Ce qui fait qu'aujourd'hui, devant la cacophonie qui a été créée par ce déchirement, par cette désagrégation de l'opposition, la majorité s'est dit, oui, c'est peut-être le moment de jouer le jeu. Et donc, ce qui arrive n'est pas seulement le fait de la majorité, une majorité qui avait ses propres calculs, c'est aussi le fait d'une opposition qui est apparemment composée des personnes qui sont là uniquement pour leurs propres intérêts.
Conséquence d'une démocratie en faillite, voilà. Comme disait le professeur Kiba.
Absolument. Et il y a là, je crois, une idée qu'il faut lancer, c'est celle véritablement d'un renouvellement de la classe politique. Nous avons une classe politique que le peuple congolais ne mérite pas.
Alors, professeur, il y a Norbert Ernest Béa de Kananga qui dit « De toutes les façons, M. Joseph Kabila est encore président du pays, on lui doit du respect, même à la dernière minute. Il a promis que les élections auront bel et bien lieu, mais pourquoi l'opposition résiste? Chers membres du Rassemblement, l'heure n'est pas au poste, mais à l'organisation des élections. Le président Kabila peut-il encore bénéficier du doute ?»
Alors, le président fait une annonce importante qu'il y aura des élections. Le problème n'est pas qu'on aura des élections, parce qu'on peut les avoir dans 10 ans, on peut les avoir dans 5 ans, tout comme on peut les avoir dans 3 mois. Le problème, c'est de dire, oui, nous allons avoir les élections cette année, comme l'accord le prévoit. Et c'est cette annonce-là que la population attend. Et non seulement qu'il y aura des élections, mais que ça, à cette élection, moi, je suis hors jeu. Je n'y participerai pas, je suis là en train de terminer, j'ai déjà terminé mon mandat. Mais rassurez-vous qu'à la fin de cette année, moi, je ne serai pas concerné par... C'est cette annonce-là que la population attend.
Professeur Pierre Virgence a évoqué les années 90 où il y avait une série de débauchages. On a vu Jean Gonz à Carly Bond passer, Birindwa, les Mongols Diaka et tant d'autres. Professeur, l'histoire est en train de se répéter pratiquement. Peut-on dire que qui a bu boira?
Alors, la majorité connaissant exactement bien les caractéristiques des opposants congolais, la majorité savait exactement que le scénario actuel viendrait. Et donc, il fallait seulement attendre que le temps s'écoule. Et le temps a donné raison à la majorité. Et aujourd'hui, c'est la majorité qui mène le jeu. Quand vous regardez le déchirement, la désagrégation, la désintégration complète de l'opposition, eh bien, ne laisse les terrains libres qu'à la seule majorité.
Alors, puisque le président a promis de nommer un premier ministre en 48 heures, il y a l'autre aile du rassemblement avec Olenga Nkoy et Bruno Tshibala qui a déposé sa liste de 5 noms et on présume que le président de la République va puiser là-dedans.
Alors, devant cette cacophonie, devant cette désintégration de... Parce qu'aujourd'hui, la majorité prend appui sur... le fait que l'opposition est déchirée, que l'opposition n'est plus une opposition qui tient le même discours, veut prendre prétexte de ça pour faire les choses qu'elle attendait faire. Et donc aujourd'hui, vous allez crier qu'elle a violé l'accord, mais elle va vous dire, mais vous n'êtes plus ensemble, moi j'ai eu plusieurs listes du rassemblement X, Y, et en fonction de ça, je ne pouvais pas m'ingérer dans vos affaires internes, voilà. Et vous voyez comment la majorité a carrément rejeté à la fois, si vous voulez, les propositions des évêques, mais aussi la gestion, n'est-ce pas, des deux tendances de le rassemblement par la CENCO.
Merci.
Et donc, la majorité est venue avec un autre style de gestion de ces déchirements.
Merci.
Alors que pour la CENCO, il y avait déjà une manière de régler cela.
Merci, professeur. Professeur Paul Kibal, il y a pour vous cette réaction que nous allons suivre.
Oui, moi, c'est Samuel Bachid et je vous appelle depuis Bukavu. J'ai comme impression que M. Félix Tshisekedi s'est trompé de modèle, car son père, avant d'embrasser sa carrière de M. No, a commencé par être au pouvoir pendant plus de 20 ans. Et au moment où nous, le peuple, déjà, nous avons déjà marre, une famille ne peut pas nous conduire tous dans le chaos.
J'ajoute, professeur, cette réaction de Dieudonné Ndimou du Maniema qui dit le rassemblement doit se calmer, car si on en arrive aujourd'hui là, c'est de leur faute. Lorsqu'on leur demandait de déposer une liste de 3 candidats, ils n'acceptaient pas, mais le 4 avril, avant le discours présidentiel, une frange du rassemblement a déposé la liste de 5 noms, à mon avis, qu'ils laissent le chef de l'État nommer le nouveau Premier ministre, car le temps passe pour organiser les élections, professeur.
Oui, merci beaucoup. Il a parlé du président Félix Tshisekedi et même du père. Le problème, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Dans le système de la démocratie indirecte, les acteurs ne représentent pas le peuple. Les acteurs représentent en réalité leur groupe politique d'intérêt. Donc, les acteurs ne représentent pas le peuple. Donc, que ce soit tel ou tel autre dans ce système-là, il n'y a pas de changement. Le meilleur changement, c'est quand les acteurs représentent véritablement et directement le peuple. S'agissant de la question sur le rassemblement, c'est ce que nous disons. Il y a toujours cette espèce de méfiance. Hein, parce que, bon, on se dit, si nous présentons une liste de 5 noms ou 4 noms, le chef de l'État risque de choisir la personne qui peut lui être favorable. De la même façon, cette espèce de méfiance pousse aussi le chef de l'État à avoir cette liste-là. Parce que si les gens étaient plus ou moins confiants, il n'y a pas un problème qui se pose. Mais le problème, c'est parce qu'on est plus autour des individus qui représentent des groupes d'intérêt qu'autour d'un projet de société, d'une idéologie qui puisse faire avancer le pays. C'est là le vrai problème. Et en démocratie directe, comme nous l'avons dit, la lutte c'est quoi? La lutte pour le pouvoir. Ôte-toi de là que je m'y mette.
j'y suis et j'y reste et attends ton tour. Et comme l'a dit le professeur Vergent, la poursuite des intérêts individuels est inhérente à la démocratie indirecte. Alors qu'en démocratie directe, c'est véritablement la poursuite des intérêts communautaires. Alors qu'ici, ce sont des intérêts individuels ou d'un groupe organisé en formation politique ou en groupe d'intérêt.
Alors, professeur, puisque pour vous, la démocratie directe semble, passez-moi l'expression, être la baguette magique, et ici et maintenant, on a un problème, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Bon, mais attendons voir. Le chef de l'État a parlé, n'est-ce pas? Et il a fait ses propositions. Il a dit qu'il va nommer. Bon, on va voir comment ça va, les choses vont se passer.
Allez-y, professeur.
Oui, je pense que le schéma est déjà tracé, quoi. Nous sommes dans le processus. Attendons voir ce qui va arriver.
Robert de Bukavu dit ce discours du chef de l'État devant le Congrès hier est un discours d'apaisement à court terme des sensibilités tant nationales qu'internationales au regard de la situation politique critique qui prévaut ces derniers temps en RDC. Mais dans le fond, je ne pense pas que sur le plan politique, il puisse être pratique, encore moins rencontrer de manière satisfaisante les attentes du peuple congolais, tant que l'absence de la volonté politique de respecter réellement la Constitution et de mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre ne cessera de hanter dans l'esprit de la majorité présidentielle, professeur.
Oui, merci beaucoup. Que ce soit l'accord de la Saint-Sylvestre, que ce soit même la Constitution, en réalité, ce sont des accords entre politiciens et non pas avec le peuple. C'est entre politiciens. Nous prenons la Constitution, par exemple. C'est un accord entre politiciens qu'on a soumis au référendum. Mais comprenez, une Constitution qui compte plus ou moins 129 articles, qu'on soumet à un peuple pour dire oui ou non, est-ce que véritablement ça a des sens? Ça n'a pas de sens. Donc ce sont fondamentalement, et même quand vous prenez les délégations qui ont participé aux négociations directes de la CENCO, mais elles ont représenté les différents groupes politiques, la majorité, l'opposition et la société civile politique, et d'ailleurs le dialogue lui était un dialogue politique. Donc c'est par rapport au système de la démocratie indirecte qui est représentatif des groupes d'individus, des groupes d'intérêts, plutôt que représentatif du peuple qui ne participe pas à la gestion de la cité.
Merci, professeur. Professeur Pierre Virgence, il y a pour vous cette réflexion qui vient de Mbandaka.
Michel Bahimbe de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Si le chef de l'État nomme le premier ministre de la 48 comme il l'a annoncé, automatiquement il a violé l'accord de la Saint-Sylvestre, puisque l'accord entrait en vigueur selon la date de sa signature. Et puis l'échec de la 5 était le vrai projet de la majorité présidentielle, puisqu'elle savait si on demande les trois noms. Le rassemblement de l'opposition refusera et la CENCO annoncera la fin du travail. Et lui-même sera comme Gara. D'ailleurs, dans son discours, il n'a jamais parlé sur la distribution politique. Pour les élections, il a dit que les élections auront bel et bien organisées, sans nous préciser la date des élections. Même en 2060, nous aurons les élections. Le chef de l'État n'organisera jamais les élections dans notre pays. Pour preuve, la population congolaise voulait attendre que le chef de l'État dise ouvertement qu'il ne sera pas candidat. Mais il n'a rien dit. Donc, le chef de l'État a pris ses pays en otage. Nous attendons l'application de la révolution 23-48 des Nations Unies.
Professeur Virgence.
Oui.
Qu'est-ce que vous répondez,
oui, mais
vous répondez
sinon,
à cet auditeur?
On comprend très bien cette interpellation, qui est une interpellation de fond, je dirais, qui traverse beaucoup d'esprits au Congo. C'est certain, ça c'est... Beaucoup de gens se retrouvent dans l'indignation que l'auditeur vient d'exprimer. On a l'impression qu'il n'y a pas de promesses ni d'engagement concret, oui. Vous vouliez poser une sous-question?
Ouais, professeur, puisque la classe politique congolaise, à comprendre vos analyses, a montré ses limites, quelle est la voie de sortie ici et maintenant?
Le problème, c'est que, je dirais, dans la réalité, c'est effectivement la classe politique congolaise qui a les choses en main. Alors, contrairement à Monsieur Kibali, moi, je ne ferai pas totalement confiance au président de la République. Il me semble que il faudrait effectivement qu'on réussisse autour de lui à lui faire comprendre que s'il ne tient pas compte
de la réalité politique autour de lui, eh bien, il ne parviendra pas à gérer ce pays d'une façon utile pour tout le monde. Et voilà, le problème, c'est que on a affaire à des gens qui sont installés au pouvoir depuis maintenant 1997, hein, et qui ont, d'une certaine manière, accaparé le pouvoir. Et donc, c'est effectivement très difficile de leur faire comprendre qu'après 20 ans, il faudrait que les élections puissent enfin donner la capacité de faire une alternance. Hein. Donc, on a maintenant un système, j'irais bloqué. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord réussir à faire, je pense, des opinions claires, c'est-à-dire à avoir un groupe de l'opposition qui serait, par exemple, basé sur une légitimité électorale de 2011 et qui ferait des contre-propositions. Et qui ferait des contre-propositions ensemble, mais c'était un peu le cadre de l'accord de la CENCO. Et le problème, c'est que cette opposition n'a pas réussi à trouver un point de vue commun. Et donc là, ça a évidemment prêté le flanc à toutes les attaques de la part de la majorité. Alors, c'est vrai que c'est, à la fin du compte, on a l'impression que c'est de nouveau le camp présidentiel qui a les cartes en main.
Professeur Michael de Mbandaka, que vous avez suivi tout à l'heure, en appelait urgemment à l'application de la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui demandait notamment aux acteurs politiques congolais, au président de la République y compris, de vite appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais là, les choses semblent plutôt se compliquer.
Ben oui, c'est ça, parce que évidemment, les seules personnes qui peuvent appliquer cet accord, ben, c'est les gens qui depuis le 31 décembre jusque maintenant, on refuse d'appliquer. Et maintenant, voilà, on a dépassé les 3 mois de non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, effectivement, c'est très difficile pour la population congolaise de croire que et les autorités institutionnelles et les opposants institutionnels représente une solution. Et donc, c'est vraiment très, très, très difficile la situation à laquelle le Congo se trouve à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a plus aucune légitimité, ni institutionnelle, ni populaire réellement. On a juste l'impression d'avoir des gens qui abusent. Et la solution, évidemment, n'est pas non plus que la MONUSCO reste, pour reprendre l'expression de votre auditeur, jusqu'en 2060.
Merci, professeur. En guise de conclusion, professeur, l'émission va se terminer. Quel conseil pourriez-vous donner à la classe politique congolaise, très brièvement?
D'écouter l'indignation justifiée du peuple et d'essayer de fabriquer des solutions qui dépassent ce qu'ils croient être leur intérêt à court terme et d'envisager l'intérêt au minimum à moyen terme de l'ensemble du pays.
Merci, professeur Pierre Virgence. Professeur Paul Kibal, un conseil à la classe politique congolaise, ce serait lequel, s'il fallait le faire?
Bon, c'est un dépassement. Un dépassement des intérêts égoïstes. Malheureusement, ils sont prisonniers du système de la démocratie indirecte, qui nous colle à la peau. Mais il faut quand même un effort, une réflexion profonde, pour parvenir à un autre système compatible avec nos coutumes et traditions. Parce que quand vous prenez même le dialogue en soi, le dialogue n'est pas une valeur de la démocratie indirecte. Le dialogue est plutôt une valeur de la démocratie directe, avec l'arbre à palabres. Donc il faut véritablement un changement de mentalité, un effort pour aller vers un système plus inclusif qui puisse mettre tout le monde d'accord.
Merci, professeur. Professeur Félicien Kabamba, conclusion.
En fait, le dialogue sous ce format-là a été véritablement une perte de temps. Et il faut que l'opposition réalise, elle a perdu beaucoup d'énergie dans les discussions et elle a oublié que l'important était de préparer les élections. Il faut que tous les états-majors des partis politiques se mettre à préparer les élections. Ce n'est que par les élections qu'on peut réussir à résorber la crise de légitimité qui frappe aujourd'hui le pays.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, Kéline Kouté, Guy Maté, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision de PDK Pelamondo, Sylvain Matundu était à la mise en onde, présentation et coordination, Alain Roumouchige. Restez branchés sur la radio de la paix. Merci de votre attention. Au revoir.